le plat de résistance qui s'en vient. Depuis quelques temps, depuis quelques mois, on a Rachel qui assiste à notre assemblée. Et on l'a côtoyé, peut-être que vous l'avez déjà croisé, déjà vu. J'invite Rachel déjà à s'avancer avec moi. Rachel, depuis quelques mois, je ne sais pas, tu nous confirmeras depuis quand tu es arrivée, mais ça se compte pas en années encore. Et on va baptiser tantôt Rachel, et on va la baptiser sur la profession de sa foi. Tantôt, on entendait, on nous racontait son histoire, et c'est ce qu'on veut entendre de Rachel. Qu'est-ce que Dieu a fait dans sa vie? Et comment Dieu t'a transformé? On te laisse la parole, Rachel. T'es pas trop nerveuse.
Bien, bonjour tout le monde. Je voudrais vous remercier d'avoir accepté l'invitation pour ceux qui ne sont pas habitués de venir ici. Et pour les autres, ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Rachel Lortie. Je viens d'une famille où la religion catholique elle a été rejetée. Donc, j'ai été élevée dans un milieu athée. Je n'ai pas été baptisée. Mais j'ai quand même été élevée dans de très bonnes valeurs, selon moi. Quand j'étais jeune, j'allais au cours de morale. En quatrième année, je suis allée en catéchèse. Il me semble que ça... puis j'ai eu le Nouveau Testament. Après, je suis retournée en morale, mais j'ai continué à lire en cachette le Nouveau Testament par curiosité. Mais à 10 ans, je ne comprenais pas grand-chose. Puis pour moi, j'aimais pas le rôle que les dirigeants catholiques prenaient. Puis je me disais qu'il y avait tellement de religions sur la terre que s'il y a un Dieu qui existait, on ne pouvait pas savoir c'était lequel. Donc, je me disais que s'il y en avait un, il pouvait juste nous accepter si on faisait le bien. Donc, je suis restée quand même athée. Mais je croyais qu'il y avait une sorte de force qu'on ne pouvait pas expliquer qui nous protégeait. Parce que je trouvais que quand je me comparais à d'autres, j'avais de la chance. Par contre, au fond de moi, même au primaire, là, j'avais une peur énorme d'échouer dans la vie, d'être rien puis d'être seule. J'avais un vide en dedans de moi. Je croyais tout le long de ma vie jusqu'à maintenant qu'on était maître de ce qui nous arrivait. Qu'on pouvait nous-mêmes nous contrôler, que ceux qui croyaient, là, c'était des aspects psychologiques, puis que la science était reine du monde, sans être scientologiste, là. Au cours de mon secondaire, j'ai eu des tas d'amis, j'étais pas souvent chez nous, pas toujours très sage. Mais j'étudiais beaucoup quand même, parce que justement, j'avais tellement peur d'échouer que je vivais par le stress, donc j'avais pas le choix de me forcer quand même. Puis, à travers tout ça, je réussissais bien. Mais il me restait toujours un vide, puis un mal-être en dedans de moi, puis une emprise du stress. Puis, j'étais pas vraiment heureuse au fond de moi. L'an dernier, alors que j'étais dans une période de remise en question sur ma vie, puis sur mon avenir, il y a un chrétien qui est arrivé en stage dans mon milieu de travail, qui est Vincent Tremblay. Au début, je voulais pas vraiment le connaître, là. dans la même période, au dîner, mes collègues de travail n'arrêtaient plus de parler de religion. Ça n'arrivait pas avant, mais là, c'était le cas. J'aimais pas ça parce que moi, je voulais pas m'obstiner pour des différences de croyances. Je trouvais que ça servait à rien. À un moment donné, on était 3-1. Le 1, c'était moi. quand je disais que je croyais pas puis que je me foutais de où j'irais parce que dans le fond je croyais pas, il m'a regardé puis il a dit c'est triste. Juste ce mot-là m'a tellement fâchée. J'ai toute l'après-midi je grognais dans le moi. Le soir j'étais fâchée puis j'étais vraiment affectée. Puis j'en suis venue à me dire que si ça me fâche que ce soit triste, ça doit être que peut-être que je me trompe à quelque part. J'ai arrêté de l'éviter, puis j'ai voulu comprendre c'était quoi, puis lui parler. À un moment donné, j'étais allée manger chez lui, puis il m'a dit qu'il fallait prier avant de manger. Et là, je pensais qu'il riait de moi, parce que là, au Québec, il y a plus personne qui prie à table, parce que dans le fond, c'est pas Dieu qui nous fait à manger, là. On travaille, on ramasse notre argent, on fait notre épicerie, c'est nous qui coupons nos légumes, c'est nous qui faisons notre manger. Puis aussi, il me disait qu'il avait la vie éternelle, puis que Dieu avait fait des choses incroyables pour lui. Moi, je le trouvais vraiment bizarre, mais il avait l'air convaincu. plus tard, j'étais chez moi, puis j'ai fait une sieste, puis j'ai fait un rêve où j'étais à table, puis j'entendais quelqu'un prier. Puis quand je me suis réveillée, j'ai réalisé qu'on prenait tout pour acquis dans le monde qu'on ne s'arrêtait jamais pour remercier le fait justement qu'on avait un travail, qu'on avait l'argent pour acheter de la nourriture, qu'on avait accès à de la nourriture, qu'on vivait dans un pays d'abondance. Puis c'est là que je me suis ouverte au fait qu'il y avait peut-être un Dieu qui existait finalement, vu qu'on avait la chance d'avoir tout ça. Puis j'ai commencé à essayer de d'y parler, là, de tenter le chemin. je suis allée aussi au baptême de Vincent, justement, au mois de mai. Puis j'ai été vraiment touchée par les louanges puis par les prédications qu'il y a eu là. Puis j'en parlais pas à personne, mais le travail continuait dans mon cœur. À la Saint-Jean-Baptiste, l'année dernière, quand je suis rentrée de fêter, je savais que ma vie elle allait changer. Puis je me suis assise devant Dieu, puis je lui ai dit que je voulais laisser ma vie passer derrière moi, puis que je voulais qu'il me guide, puis que je m'en remettais à lui. Je voulais qu'il me montre le chemin vers le bonheur. Puis les jours suivants, je me suis acheté une Bible parce que Vincent m'avait dit que mon problème, c'était que je connaissais pas la Bible. C'est pour ça que je me m'ostinais dans le vide. Puis je voulais voir en lisant la Bible si j'avais tort ou raison. Donc, j'ai voulu la lire au complet. Puis j'ai commencé vraiment au début par l'Ancien Testament. Puis là, j'étais dégoûtée parce que je voyais un... Je me disais, je crois un Dieu maintenant... qui devrait être bon, mais là, il détruit des peuples, il fait des menaces, il dit des vengeances, il veut qu'on sacrifie des animaux qui n'ont rien fait, dans le fond. Puis, j'étais vraiment choquée. Donc là, j'ai fini par sauter au Nouveau Testament. Puis là, j'ai été vraiment soulagée de voir que la venue de Jésus, c'est ça qui avait tout changé. Comme dans le verset de Marc 12, 33. Chacun doit donc aimer Dieu de tout son cœur, de toute son intelligence et de toute sa force. Et il doit aimer son prochain comme lui-même. C'est plus que tous les holocaustes et tous les sacrifices. Donc, ensuite, j'ai été invitée à un camp chrétien, au camp d'amitié, puis en septembre. Puis c'est là que j'ai révélé que je lisais la Bible, puis que finalement, je m'étais ouverte à Dieu. Puis j'ai jasé beaucoup, beaucoup avec Marie-Adile Massé. Puis c'est elle qui m'a pris en main, dans le fond. Elle m'a invitée ici, donc pour répondre à David, c'est depuis septembre que je viens ici. Aussi, on a fait ensemble le livre « Le maître et son disciple », puis c'est ça qui m'a fait comprendre beaucoup de choses. J'ai eu l'occasion aussi de parler avec beaucoup, beaucoup de monde sur mes questionnements, puis même d'observer les gens sans qu'ils sachent nécessairement. Mais là, si j'y nommais tous, ça serait trop long. Mais c'est dans cette période-là que j'ai compris vraiment ce que Dieu avait fait pour moi, qui avait sacrifié son Fils unique pour me sauver, moi, puis tous les autres pécheurs du monde. Que tout ce que j'avais à faire pour être sauvé, c'était vraiment simple, c'était juste de l'accepter, puis de le croire. Comme on peut voir dans Romains, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Aussi, mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Et dans Romains 10, « Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. » C'est donc à l'automne que je suis revenue devant lui pour le comprendre, que j'avais compris ce qu'il avait fait pour moi, que je me repentais puis que je mettais, encore une fois, ma vie entre ses mains. Après ça, j'étais quand même tiraillée par mes anciennes pensées athées. Je n'avais pas des réponses à toutes mes questions. Puis mon entourage aussi, me confrontait, il me trouvait bizarre, peut-être pris dans une secte en recherche d'amour, une relation manquée, une emprise pour me sortir de mes difficultés. Mais pourtant, à travers ça, je sentais l'esprit en moi, puis je pouvais pas le renier, puis je savais que c'était la meilleure chose qui pouvait pas m'arriver. Donc, je continuais à lire la parole, puis des fois, je me sentais vraiment, vraiment proche de Dieu. Puis d'autres fois, mais avec mon entourage, puis mes questionnements, ben je me demandais ce que je faisais, puis tout ça. Mais en janvier, je suis tombée sur le psaume 139:6. Une science aussi merveilleuse est au-dessus de ma portée. Elle est trop élevée pour que je puisse la saisir. C'est ce qui m'a fait comprendre qu'il fallait que j'écoute ce que j'avais dans le cœur, puis je ne pouvais pas avoir les réponses à toutes mes questions. Puis j'ai relu par la suite comment Jésus avait été martyrisé, puis humilié pour nous, dans Matthieu 27. Comment l'amour de Dieu était tellement grand qu'il avait laissé faire ça à son seul fils. Puis cette fois, je pouvais mettre ma raison humaine de côté, puis même j'ai pleuré. Mais je savais par l'esprit que j'étais sauvée depuis quelques mois. Mais là, j'en avais vraiment la certitude. Il n'y a plus personne qui pouvait me donner de doute. Parce que peu importe ce que dit la science, je savais dans mon cœur que Jésus était mort sur la croix pour me libérer de mes péchés et m'amener à une vie meilleure. Parce qu'effectivement, ma vie chrétienne me fait grandir. J'ai plus peur de la vie comme avant. J'ai confiance que ma vie va être bonne. J'ai envie d'aider les gens autour de moi. Avant, je vivais par le stress, puis je faisais toujours, quand on souffle les chandelles, tout ça, je faisais toujours le vœu d'être heureuse. Mais je me suis rendu compte dernièrement que depuis que je me suis convertie, je faisais plus jamais ce vœu-là. Parce que j'ai l'assurance puis l'espérance que tout ce qui m'arrive est pour le mieux, puis que les épreuves, même si c'est pas toujours facile, je sais qu'au bout du compte, sont là pour me faire grandir. Aussi, je m'attache moins au matériel. J'ai été touchée beaucoup par Ecclésiaste, qui m'a fait rendre compte que les choses auxquelles je m'attachais, c'est des vanités puis des choses éphémères. Puis que la base du bonheur, vraiment, c'est d'être rempli d'abord par l'amour de Dieu. Comme on peut voir dans Matthieu 6, « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Je veux donc aujourd'hui, par le baptême, dire que je veux vivre pour Dieu, parce que sans aucun doute, c'est la meilleure vie que je peux avoir. Puis la meilleure mort aussi, parce que je vais toujours être auprès de lui. Car j'ai l'assurance, dans Romains 8, que ni la mort, ni la vie, ni les anges et les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Merci.